إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série où l'on récite le Coran al-Karim et on en donne la traduction et l'essence en langue française, ainsi que certaines règles et sagesses que l'on peut tirer de ces versets. A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaytanir rajim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسب ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Donc, nous en sommes au verset 9 de sourate Al-Kahf, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: ne pense pas que les compagnons de la caverne et de Ar-Raqim constituèrent le plus étonnant de nos signes. Mentionne lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne et dirent: Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et facilite-nous le chemin de la droiture. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil dans la caverne des années durant. Puis, nous les réveillâmes afin que se manifeste lequel des deux groupes saurait le mieux évaluer la durée de leur séjour. Nous avons lu du verset 9 au verset 12, ou bien donné la traduction du verset 9 au 12. Allahu tabaraka wa ta'ala, quand il dit: vas-tu penser que les hommes de la caverne, c'est-à-dire il pose cette question, ce qui implique la négation et l'interdiction. C'est-à-dire, ne pense pas que le récit des hommes réfugiés dans la caverne et ce qui leur est arrivé soit étranger au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala et soit sans équivalent dans sa sagesse. Bien plus, Allah a comme signe merveilleux et extraordinaire ce qui est innombrable. Des signes pareils à celui des hommes et leur création, des signes pareils à celui des hommes de la caverne, et des signes encore plus grands que cela. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala ne cesse de démontrer et d'exposer à ses serviteurs des signes dans les horizons et en eux-mêmes, ce qui leur permet de distinguer entre la vérité et l'erreur, entre la guidance et l'égarement. Donc le sens de cette négation ne veut pas dire que le récit des hommes de la caverne ne soit pas un fait prodigieux. Bien plus, il fait partie des signes merveilleux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son sens veut plutôt dire que ce genre de miracle est innombrable. Ce genre de miracle est innombrable. Aussi, se limiter à ce seul récit dans le domaine du miracle montre une faiblesse dans la science et la raison. Car la mission du croyant est de réfléchir à tous les signes d'Allah auxquels il invite les hommes à méditer, car ils sont la clé de la foi et la voie de la science et de la certitude. Leur attribution à la caverne et à Raqim, l'épitaphe, c'est-à-dire la pierre sur laquelle leur récit fut écrit, qui garde leur nom et leur récit, vise à perpétuer leur souvenir pendant longtemps. Ensuite, il mentionna leur récit de façon globale avant de mentionner leur récit de façon détaillée. En mentionnant leur récit de façon globale, Allah Ta'ala a dit dans le sens « lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne », c'est-à-dire qu'ils se sont réfugiés dans la caverne pour échapper aux persécutions et aux épreuves endurées de la part de leur peuple. Ils firent cette invocation, cette demande. « Seigneur, assiste-nous par un effet de ta grâce, c'est-à-dire pour nous raffermir, nous préserver du mal et nous assister dans la voie du bien. Et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude, à la droiture. C'est-à-dire facilite-nous toute cause pouvant mener à la rectitude et réforme-nous les choses de notre religion et de notre vie ici-bas. » Ils ont donc réuni entre l'action et la fuite de la tentation vers un lieu où ils pourront se cacher, invoquer Allah et le supplier en ne comptant ni sur eux-mêmes ni sur les autres. Ces versets sont une preuve de la légalité de fuir avec sa religion, de délaisser et de quitter les terres de perversion et de mal dans lesquelles nous sommes tentés dans notre foi et notre religion vers les terres d'islam s'il en existe, ou même se cacher dans une caverne s'il le faut, s'il n'y a rien. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé leurs invocations, du fait qu'ils ne comptaient ni sur eux-mêmes ni sur les autres, mais ils s'en sont remis totalement à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il leur donna ce à quoi ils ne pensaient même pas, c'est-à-dire qu'il les a plongés, nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil dans la caverne, de longues années durant, à savoir 309 ans. Allah Ta'ala les a fait dormir combien de temps ? 309 ans. Durant ce sommeil, Allah Subhanahu wa Ta'ala protégea leur cœur de toute agitation et peur, et les protégea de leur peuple afin que cela soit un signe évident. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens « Puis nous les réveillâmes de leur sommeil pour savoir lequel des deux parties saurait évaluer le mieux la durée exacte de leur séjour. » C'est-à-dire afin que nous sachions lequel d'entre eux peut connaître la durée de leur sommeil. Comme Allah Ta'ala a dit dans le sens « Nous les avions ensuite réveillés pour leur permettre de s'interroger mutuellement. » S'interroger sur quoi ? dans la connaissance de la durée de leur séjour. Il y a en cela une maîtrise du calcul et une connaissance de la perfection du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa sagesse infinie et de sa miséricorde. S'ils avaient continué leur sommeil, ils n'auraient pu avoir accès à aucune de ces connaissances. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, du verset 13 au verset 15, « Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Il s'agit de jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avons alors guidés plus encore. Nous avons raffermi leur cœur lorsqu'ils se dressèrent face à leur roi et dirent « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, car par Allah, nous proférerions alors des propos mensongers et excessifs. Les membres de notre peuple ont adopté des divinités en dehors de lui. Que n'apporte-t-il les concernant une preuve manifeste? Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah ?» À partir du verset 13, Allah tabaraka wa ta'ala commence à détailler leur histoire, leur récit. Et Allah raconte à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, avec la vérité qui ne souffre d'aucun doute ni confusion à tout point de vue, que c'était un groupe de jeunes gens, moins de 10 personnes, qui croyaient en leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en Allah seul, sans lui donner d'associé, contrairement à leur peuple. Allah subhanahu wa ta'ala les gratifia pour leur foi et leur ajouta de la guidance sur leur guidance. C'est-à-dire qu'en raison du principe de leur guidance vers la foi, Allah leur ajouta encore plus de guidés, qui est la science utile et les œuvres vertueuses. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole, Allah ajoute à ceux qui sont guidés encore plus de guidance. L'imam al-Bukhari et bon nombre de savants de la Sunna se sont appuyés sur ce verset et des versets équivalents pour prouver que la foi augmente et diminue. Car ici, Allah tabaraka wa ta'ala leur a rajouté de la guidance sur leur guidance, c'est-à-dire de la foi en plus de leur foi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala explique qu'il a raffermi leur cœur, c'est-à-dire qu'il les a rendus patients et fermes en inspirant de la sérénité à leur cœur durant ces moments de difficulté et d'épreuve, ces moments critiques. C'est là une preuve de sa compassion, subhanahu wa ta'ala, et de sa bienveillance à leur égard, en les assistant dans la voie de la foi, de la guidance et de la patience, en les rendant fermes et en leur donnant la quiétude et la sérénité dans leur épreuve. Allah les a rendus fermes lorsqu'ils se sont levés devant leur roi et devant leur peuple pour proclamer l'unicité d'Allah et pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui nous a créés, qui nous a pourvus en ressources, qui dispose de nous et qui nous protège. Il est subhanahu wa ta'ala le créateur des cieux et de la terre qui possède le pouvoir exclusif de créer ces créatures immenses et aucune de vos idoles ne possède ce pouvoir, ni les statues qui ne peuvent ni créer, ni donner de subsistance, ni nuire, ni être utile, ni pouvoir de créer, ni faire mourir ou de ressusciter. Ils ont démontré ici, ces jeunes gens, ces jeunes croyants, que quand on reconnaît qu'Allah est le seul créateur et détenteur de toutes choses, c'est-à-dire qu'on affirme l'unicité dans la seigneurie d'Allah, cela prouve son unicité dans sa divinité, dans son adoration. C'est-à-dire, puisqu'Allah est le seul créateur, le seul détenteur, le seul roi, le seul qui subvient à nos besoins, le seul qui fait vivre et mourir et ressusciter, alors il doit être le seul à être adoré. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, juste après avoir dit que Allah est notre Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui. Ça veut dire, puisqu'Allah est notre Seigneur et le Seigneur des cieux et de la terre, nous n'adorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans lui attribuer d'associé, qui que ce soit parmi les créatures. Sans quoi, si nous faisions cela, nous commettrions, en invoquant avec lui de fausses divinités, après avoir eu connaissance de la vérité, qu'il est le Seigneur et le seul Dieu qui mérite l'adoration, nous aurions commis la pire des iniquités, des transgressions et des mensonges. C'est-à-dire qu'ils expriment que s'ils avaient accepté cela, ils auraient dévié loin de la vérité et ils se seraient égarés loin de la voie droite. Ils ont donc réuni ici entre l'attestation de l'unicité de la seigneurie d'Allah et l'unicité de la divinité en se conformant à cela. Avec la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est lui la vérité et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est vain et mensonge. C'est là la preuve de leur connaissance parfaite de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et l'augmentation de la guidance de la part d'Allah à leur profit. Puis, ces jeunes gens ont parlé de leur peuple en disant « Ces gens-là qui sont des nôtres ont adopté des divinités en dehors d'Allah. Si seulement ils pouvaient justifier ce culte par une preuve évidente, qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Allah ?» Après avoir rappelé le don de la foi et de la guidance qu'Allah leur a fait, ils ont vu ce que professaient leurs compatriotes comme fausse divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont rejeté toutes ces fausses croyances en leur démontrant qu'ils ne possédaient aucune preuve de ce qu'ils avançaient et professaient, mais qu'ils étaient dans la plus grande des ignorances et le plus profond des égarements, en leur demandant de fournir des preuves évidentes à cela. Un argument, une démonstration pour corroborer du bien fondé de leurs thèses erronées. Il ne s'agit de leur part que de mensonges forgés sur le compte d'Allah, ce qui est la plus grande des injustices. C'est pour cela qu'il dit, subhanahu wa ta'ala dans le sens, qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم